Bienvenue sur Fréquence Mistral, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette troisième édition de notre rendez-vous mensuel locaux du bio. Ce mois-ci, nous retrouverons toujours Camille Danel, chargée de communication à Biocoop Le Grenier. Bonjour Camille.
Bonjour Ingrid.
Et notre invité, Faisal Khalaf, membre notamment de l'association Tous Migrants. Bonjour Faisal.
Bonjour.
Alors au programme de ce nouveau numéro de Locaux du Bio, nous allons dans un premier temps présenter votre association, Faisal, et échanger sur la situation des personnes exilées dans le monde pour ensuite revenir sur les Hautes-Alpes. Puis nous reviendrons sur deux événements qui ont eu lieu durant cette deuxième quinzaine du mois de mars, donc la grande maraude solidaire qui s'est tenue le samedi 16 mars à Montgenèvre et la soirée de soutien aux exilés samedi 23 mars à Gap. Donc nous en reparlerons un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et pour finir, Camille nous partagera son astuce mensuelle. Alors pour commencer, Faisal Khalaf, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Comme vous l'avez dit, je suis membre de l'association Tous Migrants et du collectif Maraude. J'expliquerai un peu plus tard ce que c'est le lien entre ces deux organisations. Je suis membre du collectif donc et de Tous Migrants depuis 3 ans maintenant. Et par ailleurs, je suis avocat, donc je suis pas mal sur les aspects juridiques, pas seulement, mais je passe du temps là-dessus, quoi.
Est-ce que dans un premier temps, on peut nous faire un petit rappel historique dans ce point de passage que sont les Hautes-Alpes et plus particulièrement le col de Montgenèvre?
Ouais, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je pensais que c'était un point de passage depuis 2000 ans. Et finalement, aujourd'hui, en écoutant une émission, je me suis aperçu que c'était bien plus ancien que ça. Ça daterait de la haute antiquité. Donc quand je regardais les dates de la haute antiquité, ce serait plutôt au moins 500, moins 2800 avant Jésus-Christ. Donc en fait, à partir du moment où il a commencé à y avoir du commerce et de la circulation de personnes entre différentes parties du monde et d'Europe notamment. Puis en fait, ça s'explique par la topographie du col de Montgenèvre, puisqu'en fait, c'est un point de passage simple qui permet de relier le versant est au versant ouest, donc la partie qui est aujourd'hui italienne, de la partie française. Et en fait, Montgenèvre, ça viendrait d'un dieu qui s'appellerait Janus et qui serait un dieu à deux visages. Voilà, donc le col de Montgenèvre, ce serait historiquement de là que viendrait le nom Montgenèvre.
C'est un col qui est à quelle altitude ?
1800. Et alors plus récemment, ça a été ce qu'on appelle, par abus de langage, la République des Escartons, qui en fait n'était pas une république au sens où il n'y avait pas d'autonomie politique, mais alors Humbert II, je crois, lui a conféré certains droits, une certaine autonomie. C'était à partir du 14e siècle, je crois, jusqu'au 18e siècle. Et donc, dans cet espace politique, en fait, qui était à cheval sur l'actuelle France et l'actuelle Italie, on avait une certaine solidarité et liberté plus marquée que dans d'autres régions du Royaume de France. Et bon, les événements qui ont suivi, notamment la Révolution française, ont participé à ce qu'aujourd'hui il existe une frontière sur ce territoire, mais en fait c'est une frontière qui est très récente à l'échelle de l'histoire et notamment, bah, comme je viens de vous le dire, le Moyen-Âge et ce point de passage romain.
Aujourd'hui, pour donner une vision un peu plus globale à nos auditrices, nos auditeurs, qu'en est-il en fait des phénomènes migratoires dans le monde et comment on peut les mettre en lien avec la situation qu'il y a dans les Hautes-Alpes?
Alors, en fait, dans le monde, on imagine que toutes les personnes qui quittent leur pays souhaitent rejoindre l'Europe ou les pays dit du Nord. En fait, c'est pas du tout le cas. La plupart, je crois que c'est 80-90% des personnes qui quittent le pays dans lequel elles ont grandi, vont s'installer dans des pays limitrophes. Et c'est finalement par une suite d'événements successifs que ces personnes se retrouvent à rejoindre un pays dit du Nord, donc l'Europe. Alors, je dis pas que le phénomène de personnes qui quittent leur pays pour rejoindre l'Europe n'existe pas, évidemment il existe, mais il est pas majoritaire, il est très minoritaire. Et donc finalement, ce qu'on voit, nous, en Europe, c'est que une petite partie des personnes qui se déplacent dans le monde et qui s'installent en fait dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. Et si on compare le nombre de déplacés qui se comptent en plusieurs millions en Égypte, plusieurs millions de Palestiniens, en Syrie, au Liban, pardon, plusieurs millions de Syriens, finalement, ce qu'on connaît en France, c'est assez minime. Même quand il y a eu cette augmentation de l'afflux migratoire, notamment à Lampedusa, comme ça a été le cas cet été, dans mon souvenir, mois de juillet, d'août, il me semble, qu'on avait dit que 10 000 personnes avaient débarqué à Lampedusa, c'est des nombres qui sont finalement très petits par rapport au flux migratoire qu'on peut connaître à une échelle plutôt locale. Quand je dis plutôt locale, c'est à une échelle d'une région.
Quand les personnes arrivent dans ces pays du Nord, souvent c'est poussé par des successions d'événements qui font que les personnes arrivent en France. Quelles sont les motivations en fait qui amènent aussi les personnes à se déplacer ?
Elles sont multiples, ces motivations. Alors, si on pense à ce qui s'est passé récemment, notamment au mois de février-mars dernier, le gouvernement tunisien a mis en place une politique extrêmement xénophobe, et ça on l'a ressenti à Briançon. On a senti que des gens qui en fait avaient vécu en Tunisie pendant des années, qui pouvaient venir d'Afrique subsaharienne en fait, ont dû quitter la Tunisie parce que leur sécurité n'était plus assurée en Tunisie. Donc elles se sont retrouvées à prendre le bateau, à quitter la Tunisie en direction de l'Italie et à rejoindre la France, puisque ce sont des personnes, pour la plupart d'entre elles, qui étaient francophones, qui donc ne pouvaient que rejoindre la France pour retrouver une capacité de communication. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres gens qui, alors qu'on voit moins en ce moment, mais des Afghans ou des Iraniens. Les Iraniens, c'est plus pour des raisons politiques, puisqu'en fait, on imagine les migrants comme des personnes totalement pauvres, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Il y a des gens qui migrent, qui ont pas mal d'argent en fait dans leur pays, mais qui quittent leur pays parce que il y a des atteintes régulières à leur liberté politique individuelle. C'est notamment le cas de certains Iraniens qu'on a pu croiser à Briançon. On a aussi croisé pas mal d'Afghans pendant un temps qui fuyaient tout simplement la guerre. Cette année, ce sont les Soudanais qui ont rejoint en nombre, et encore une fois, je rappelle, hein, c'est des petits nombres, mais qui ont rejoint la France parce qu'il y a une crise actuellement au Soudan et que ces personnes craignent tout simplement pour leur vie.
Et juste par questionnement, ils s'arrêtent pas forcément en France. Ils arrivent d'Italie, ils viennent en France et parfois ils veulent aller dans d'autres pays qui sont mieux disant en termes d'accueil des exilés.
Exactement, ouais. Ça arrive que certains ou certaines passent par la France pour rejoindre des pays du Nord, pour rejoindre l'Angleterre, évidemment. En fait, les personnes qui traversent la Manche, pour certaines d'entre elles, sont passées par Briançon. Donc oui, c'est vrai. On a aussi de plus en plus, malheureusement, des gens qui ont quitté leur pays et qui se retrouvent à errer en Europe parce qu'elles n'obtiennent de papier nulle part. Donc elles cherchent à occuper un travail en France, un travail en Allemagne, en Italie, sans pouvoir s'installer ni même avoir de projets familiaux à long terme. Ça, c'est des gens qu'on croise un peu plus ces derniers temps et qui en fait traversent la frontière italienne mais l'ont déjà traversée dans un sens ou dans l'autre par le passé, quoi.
Et ça, ce sont des situations qui sont de plus en plus fréquentes. On observe un durcissement des conditions d'accueil dans tous les pays européens.
Oui. Globalement, oui. Oui. Les conditions d'accueil en Espagne et au Portugal restent encore bonnes pour l'instant, mais en Italie, en France, oui, on a un durcissement en général, ouais.
Et on va revenir du coup sur le territoire haut-alpin. Quelle est aujourd'hui la situation des personnes exilées qui arrivent à la frontière franco-italienne ?
Bon, là, pour le coup, la très grande majorité d'entre elles ne font que passer. Elles partent pour la plupart dans des grandes villes où elles peuvent retrouver une communauté. D'autres, comme tu l'as rappelé Camille, traversent la France et ne souhaitent pas du tout s'installer en France. C'est simplement un point de passage. Alors pour les personnes qui restent, et il y en a certaines, c'est vrai, j'en parlais avec Anne de la CIMAD. Pour les personnes qui restent, notamment les mineurs, il y a un accueil à Gap qui existe, plusieurs structures qui accueillent ces personnes, notamment le réseau hospitalité. Pour les demandeurs d'asile, il y a aussi un accueil, JRS Welcome, le 115, enfin l'équivalent du 115 aussi, qui accueille des exilés, enfin en tout cas des personnes qui sont en demande d'asile et dont la demande d'asile est en instruction. Mais finalement, ça représente très peu de personnes parmi toutes celles qui passent. Et situation, encore une fois, un peu distincte qui existe à Briançon, ça a été des bâtiments qui ont été occupés ces derniers temps, ces derniers mois, pour permettre d'accueillir des personnes de manière relativement digne.
C'est le refuge solidaire, c'est ça ?
Non. En fait, le refuge solidaire a dû fermer ses portes cet été, à la fin de l'été. À ce moment-là, un autre bâtiment avait été occupé, le tristement dénommé le Pado. Pour l'absence d'eau, puisque l'eau a été coupée à partir de mi-août, donc très très tôt en fait, puisque le bâtiment a commencé à être occupé au début de l'été, et donc finalement toutes les personnes qui étaient au refuge, qui ont été accueillies sur la paroisse de Sainte-Thérèse pendant 2 semaines, se sont retrouvées à rejoindre ce bâtiment, puisque la paroisse, en tout cas l'association qui gère la paroisse, a dû récupérer ce petit bout de terrain et ce bâtiment, donc les personnes se sont retrouvées au Pado, sans eau.
Par rapport au refuge, ouais, ça a fermé principalement pour des raisons de manque de moyens et de surpopulation, quoi. Ils ont été submergés par l'accueil, et vu que l'accueil est pas géré par la mairie, eh bien le milieu militant associatif pouvait pas gérer ces personnes, quoi. Et pourtant elles sont là, donc faut bien les accueillir.
Ça, on y reviendra aussi de manière plus globale après sur quel soutien il existe, par qui, comment pouvoir poursuivre les actions aussi. Et concernant notamment depuis la loi immigration, est-ce que les conditions de circulation des personnes se sont complexifiées ? Est-ce que aussi en termes de demande d'asile, ça s'est également complexifié ?
Alors pour l'instant, dans les Hautes-Alpes, on observe 2 choses. Il y en a une sur laquelle je vais passer rapidement, puisque toi tu nous parles de circulation effectivement, mais on s'aperçoit quand même qu'on a des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, qui sont délivrées à des personnes qui sont en France depuis 5, 10, voire 20 ans. Ça, c'est une conséquence directe de la loi Asile et Immigration. Cette loi, elle prévoit d'autres dispositions en matière d'asile, notamment et c'est assez révoltant, la possibilité de priver de liberté des personnes qui font une demande d'asile, le temps que leur demande d'asile soit examinée, donc des personnes qui sont déjà meurtries, traumatisées, peuvent être privées de liberté, tout simplement parce qu'elles demandent une protection. Ça n'a pas encore été mis en place, puisque en fait les personnes qui arrivent d'Italie, elles ne font pas leur demande ici, sur le territoire, dans les Hautes-Alpes, elles vont dans une autre préfecture, souvent Marseille, puisque c'est la préfecture la plus proche, bien que la loi prévoit qu'elles puissent faire leur demande auprès de n'importe quelle autorité. Non, par contre, ce qui s'est passé récemment, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État ont rendu chacune une décision, et par cette décision, elles mettaient fin à ce qui se faisait jusqu'ici, c'est-à-dire des refus d'entrée sans garantie, donc sans assistance d'un avocat, sans interprète, dans des conditions de privation de liberté qui n'étaient pas légalement encadré. Donc à partir de maintenant, la privation de liberté à la frontière, lorsqu'elle existe, doit être soumise à des garanties. Et en pratique, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui arrivent d'Italie par le col de Montgenèvre, lorsqu'elles passent par la PAF, la police aux frontières, qui est donc proche de la frontière, pour peut-être la majorité d'entre elles, on n'a pas encore des chiffres précis, mais pour une bonne partie d'entre elles, ressortent libres du bâtiment, avec un document les informant qu'elles peuvent faire une demande d'asile à Marseille, bien qu'en réalité, ces personnes ont tout à fait la possibilité de poser cette demande dans une autre préfecture. Donc on a malgré tout une évolution tout de même positive.
Donc les arrestations ont quand même un peu chuté, quoi, les gardes à vue arbitraires.
C'est effectivement plutôt une privation de liberté qui relève pas du régime de la garde à vue, qui ressemble à un régime de retenue administrative, bien que ce ne soit pas exactement une retenue administrative. Et effectivement, le nombre a chuté. Et comme je le disais tout à l'heure, on a quand même moins de passages aussi. Donc,
c'est ce qui explique. Forcément.
Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ce qui explique. On ne sait pas du tout quelle sera l'évolution dans quelques mois si davantage de personnes se présentent à la frontière. Et on sait en plus de ça que les polices aux frontières, selon les frontières, ne réagissent pas de la même manière. Certaines ont continué à appliquer l'ancien régime, qui est aujourd'hui illégal, et d'autres, comme c'est le cas ici, appliquent désormais, pour certaines personnes, pas pour toutes, et on se demande pourquoi, appliquent le régime tel qu'il est prévu par ces décisions du Conseil d'État et de la Cour de justice de l'Union européenne.
On va revenir aussi à justement votre association Tous Migrants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous parler de cette structure et un peu de ses actions dans les Hautes-Alpes et même en dehors des Hautes-Alpes si son territoire d'intervention est plus large?
Oui, bien sûr. Alors c'est une association qui a été créée en septembre 2015. Qui a été créée par des personnes qui, face aux accidents en montagne et aux morts en montagne, ont décidé de réagir. Et donc, on souhaitait créer cette association pour sensibiliser de manière générale au phénomène de migration. Et aujourd'hui, c'est une association qui a vocation à faire du plaidoyer pour parler de ce que c'est que la migration à des jeunes, à des moins jeunes, à tout type de public. Et c'est aussi une association qui est pas mal tournée vers la défense des droits fondamentaux des exilés.
Donc vous êtes beaucoup de juristes, avocats, de personnes qui sont dans les métiers de soutien juridique aussi dans cette association?
Alors oui, on est une petite poignée dans l'équipe juridique. L'association a déjà fait recours à des avocats et avocates des Hautes-Alpes. Moi, en tant qu'avocat, j'y participe et je mets à disposition mes connaissances juridiques. Et effectivement, on a des juristes qui font partie de cette association. Régulièrement, des personnes en stage ou en doctorat qui participent aux activités de l'association. Et des personnes aussi qui n'ont pas forcément de qualification reconnue, diplômée de juriste, mais qui...
Et aujourd'hui, vous êtes nombreux dans cette association à intervenir sur le territoire?
C'est difficile à dire, parce qu'on a des gens qui partent, des gens qui viennent. Évidemment, il y a un socle qui est assez solide, un socle de personnes qui ont fait partie des fondateurs et fondatrices de l'association. On a quand même des gens un peu plus jeunes qui sont pas forcément, enfin qui n'étaient pas forcément impliqués dans le Briançonnais jusqu'ici, qui s'impliquent de plus en plus dans cette association. C'est à géométrie variable, un nombre variable, voilà. Mais quand on voit que la Grande Maraude, on va en reparler aussi, a quand même mobilisé pas mal de monde et a mobilisé de belles énergies, on s'aperçoit, et il n'y avait pas que Tous Migrants dans l'organisation de cette Grande Maraude solidaire, mais on s'aperçoit que les énergies sont quand même là.
Et aujourd'hui, on en parlait un petit peu avant, en termes de soutien et de moyens humains et financiers, comment est-ce que vous arrivez à mener vos actions? Est-ce qu'il y a des soutiens aussi? Est-ce qu'il y a certaines collectivités territoriales qui vous soutiennent ou pas du tout? Est-ce que vous avez d'autres partenaires associatifs qui soutiennent vos actions? Est-ce qu'il y a des partenaires même privés, des particuliers, qui vous permettent, même financièrement, de réussir à continuer ce que vous faites?
Alors, des collectivités territoriales qui nous soutiennent, j'ai tendance à dire qu'il y en a peut. Je veux pas dire que ça n'a pas eu lieu dans le passé. Hein. Moi, je suis membre de cette association depuis 3 ans, donc ça a pu arriver par le passé. Pour ce qui est de l'aspect financier, donc il y a des dons, hein, et les dons sont évidemment fondamentaux pour faire vivre l'association. Alors c'est des dons qui sont, à ma connaissance, je suis pas non plus trésorier de cette association, mais à ma connaissance, c'est des personnes privées, des particuliers. Et parfois, il se peut que ce soit des entreprises. Je pourrais pas rentrer dans le détail, que je connais pas le détail des comptes. Et d'autres associations, effectivement, enfin, tous migrants est en lien permanent avec d'autres associations, comme l'ANAFE, Association Nationale d'Assistance aux Frontières. Je crois que j'ai oublié le dernier E, étranger, je sais plus exactement. Mais c'est une association nationale qui travaille sur les 3 frontières, donc Calais, la frontière franco-italienne, franco-espagnole. On a d'autres associations, évidemment, avec lesquelles on est en contact, avec lesquelles on communique régulièrement. Notamment Turkinekin, qui est une association qui est un collectif d'associations même dans le Pays Basque, qui rencontre évidemment les mêmes problématiques que ce qu'on peut rencontrer ici, qui est structurée de manière relativement différente et qui, elle, pour le coup, est très tournée vers l'accueil et compte énormément de membres. On est en lien évidemment avec les associations dans le Pas-de-Calais, Médecins du Monde, évidemment, Médecins du Monde qui intervient au refuge. Donc tous migrants travaillent énormément avec Médecins du Monde, sur notamment les maraudes.
J'avais une question juste avant qu'on fasse la transition avec ça, sur justement là où vous parlez de beaucoup beaucoup de collectifs qui interviennent en soutien aux exilés. Est-ce que on sent que dans le département l'information n'est pas reçue de la même manière entre le nord et le sud du département, et comment on pourrait expliquer ça? On a l'impression que les gens sont quand même plus informés de cette situation dans le nord du département, donc dans tout ce qui est le Briançonnais, plutôt que dans le Gapençais. Et comment on expliquerait ça, que l'information ne passe pas forcément entre les deux parties du territoire?
C'est une bonne question à laquelle je crois que je vais pas pouvoir. J'ai pas d'explication. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je constate aussi. Et cette soirée qui a eu lieu, on l'attendait depuis longtemps, puisque c'était nécessaire effectivement de pouvoir mettre en lien des personnes solidaires dans le Gapençais avec les personnes solidaires et les exilés dans le Briançonnais. Mais alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être aussi, si, on peut peut-être avancer une première raison quand même, c'est que initialement, les personnes qui se sont mobilisées, ce sont des personnes qui ont quand même tendance à bien connaître la montagne côté Briançonnais. Alors j'imagine que les Gapençais vont aussi en montagne côté Briançonnais, mais ont peut-être un rayon d'action plus étendu, et donc connaissent d'autres montagnes. Alors pour les Briançonnais, c'est leur montagne, entre guillemets. Donc ce sont elles et eux qui se sont mobilisés en 2015 pour éviter qu'il y ait des morts dans ces montagnes. Alors aujourd'hui, ça a un peu changé, puisque finalement, les personnes qui font partie du collectif maraude ne viennent pas que du Briançonnais, mais finalement on a aussi, paradoxalement, assez peu de personnes qui viennent du Gapençais. Il y en a, mais pas tant que ça.
Et parce qu'il y a aussi un fort enclavement du territoire ici, où les gens ont tendance quand même, on le constate parfois, à rester aussi sur des petits territoires.
Tout à fait.
Moi je pense aussi, si je peux me permettre de donner mon avis, que c'est aussi peut-être un manque de médiatisation d'un sujet qui reste assez porté sur des milieux très militants, et le grand public ou les personnes lambda qui peuvent par exemple être investies dans des associations style la Croix-Rouge ou le Secours Populaire. La Croix-Rouge est investie sur les sujets des exilés, mais les personnes qui peuvent être bénévoles dans ce genre de structure sont pas au courant ou sont pas impliquées sur les sujets qui sont liés aux exilés, alors que l'accueil digne de chaque personne, ça devrait concerner tout le monde, en fait.
C'est vrai que finalement, on voit que c'est assez hermétique entre ces associations qui font un travail qu'on peut que encenser, évidemment, mais ça reste assez hermétique, oui, tout à fait. C'est pas les mêmes personnes qui agissent dans ces assos et qui agissent, en tout cas, moi, dans les structures que je connais à Briançon.
Et bien justement, on va parler de 2 actions qui vont permettre un peu de médiatiser ce qui est fait au quotidien par votre association et d'autres collectifs sur le territoire des Hautes-Alpes. Alors, en attendant, on va marquer une première pause musicale avec 2 choix musicaux que tu nous as soumis, Camille. Alors, cette première pause musicale, ce sera une relecture afro-funk du morceau Le Métèque de Georges Moustaki par l'artiste lyonnais Pat Kala.
Et mes cheveux aux 4 vents. Avec avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, sans jamais assouvir sa faim. I got a sad face. De juifs errants, de pas trop grecs, de voleurs et de vagabonds. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et de tout ce qui porte des jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire une histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. I got a sad face. Ma gueule de métèque, des juifs errants, de pas trop grecs, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai voir tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, et nous vivrons à en mourir. Et je ferai de chaque jour toute une éternité d'amour, et nous vivrons à en mourir.
Écoutez Pas de Cala et sa reprise du morceau Le Métèque de Georges Moustaki, une chanson qui en 1969 questionnait déjà le rapport de la France aux personnes exilées. Donc nous sommes toujours sur Fréquence Mistral en compagnie de Faisal Calave de l'association Tous Migrants et de Camille Danel chargée de communication à Biocop Le Grenier. Donc nous allons faire revenir sur les deux événements dont nous parlions un peu plus tôt, donc la Grande Maraude Solidaire, donc organisée par plusieurs associations et collectifs du territoire haut-alpin et transfrontalier le 16 mars à Montgenèvre, et la soirée de soutien aux exilés donc à l'impro à Gap le 23 mars. Donc on va commencer en parlant de la maraude. Alors Faisal, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette Grande Maraude Solidaire ?
Oui. Alors peut-être que pour expliquer ce que c'est que la Grande Maraude Solidaire, je peux expliquer ce que sont les maraudes. Donc les maraudes, donc c'est quoi ? Comme je le disais, on a un collectif maraude qui existe dans le Briançonnais. Ce collectif maraude, il est composé de l'association Tous Migrants, de l'association Médecins du Monde et de personnes qui ne font partie ni de l'association Tous Migrants ni Médecins du Monde, mais qui souhaitent organiser ces maraudes. Alors les maraudes, ça consiste en une présence dans les montagnes, enfin sur des chemins de montagne. Et sur ces chemins, on sait qu'on peut rencontrer des exilés qui viennent d'Italie. L'idée, c'est de leur proposer un coup de main si ces personnes en ont besoin. Si elles se retrouvent dans une situation complexe, une blessure, si elles ont faim, si elles sont paniquées, nous, notre objectif, c'est de les rassurer et de leur apporter l'aide qu'elles demandent. Donc ça peut être tout simplement donner un peu de thé, ou bien si elles nous le demandent, les raccompagner jusqu'au refuge qui, lui, est situé à Briançon. Parce qu'en fait, j'aurais pu le préciser plus tôt, la frontière, elle est située à 15 km de Briançon. Sur cette frontière, on a un village frontalier côté italien, Clavière, on a un village frontalier côté français, Montgenèvre, mais à Montgenèvre, il n'y a pas de structure d'accueil. La seule structure d'accueil, c'est le refuge, et quand des squats sont ouverts, les squats à Briançon. Donc les personnes doivent, après avoir traversé la frontière, rejoindre Briançon à pied.
Donc même pour obtenir une aide médicale, il est nécessaire de se déplacer encore jusqu'à Briançon.
C'est ça, sauf urgence évidemment, ouais. Mais oui, c'est ça. Pour dormir au chaud, avoir une douche chaude, il faut aller jusqu'à Briançon. Ouais.
Puis cette grande maraude... Donc là, vous venez d'expliquer ce qu'étaient les maraudes.
Qu'est-ce que c'est que les maraudes, exactement?
Cette grande maraude solidaire que vous organisez donc une fois par an.
C'est ça.
Cela, comment ça se passe? Quel en est l'objectif?
Alors, la Grande Maraude Solidaire, donc cette année, c'était la sixième Grande Maraude Solidaire qui avait lieu. L'idée de cette Grande Maraude Solidaire, c'est avant tout de s'adresser à la police aux frontières, à la PAF, puisqu'en fait, cette Grande Maraude Solidaire, elle part du centre-ville de Montgenèvre, enfin du centre de Montgenèvre. Alors après, c'est un petit village, hein, c'est pas très étendu. Elle se poursuit devant la police aux frontières, devant laquelle il y a des prises de parole, des témoignages d'exilés, des prises de parole de la part des associations qui expliquent ce qu'elles font, ce qu'elles dénoncent. Une fois que ces prises de paroles sont terminées avec des pages musicales quand même, tout le monde retourne à l'espace partenaire, comme on le dit, donc l'espace où les associations sont présentes. On mange un petit morceau et les gens partent en montagne pour découvrir quelles sont les conditions de marche de nuit dans la neige. Et donc, cette grande maraude solidaire s'est déroulée effectivement le 16 mars.
Donc, est-ce qu'elle a aussi un côté aussi informatif pour éventuellement des citoyens, comme on disait juste avant, qu'il n'y a pas que les gens des collectifs ou des gens extrêmement politisés qui peuvent se joindre à ces actions-là? Aussi peut-être informer des citoyens qui seraient curieux aussi de savoir comment se passent ces moments-là, leur permettre aussi de venir participer.
Oui, c'est ça. C'est qu'on a des gens, évidemment, qui viennent par conviction tous les ans, et puis on a des personnes qui ne sont jamais venues et qui découvrent Montgenèvre avec la Grande Maraude Solidaire.
Et ça, donc, on va le mettre en lien aussi avec cette soirée que vous avez organisée le 23 mars, donc à l'impro à Gap. Est-ce que tu peux nous en parler, Camille?
Oui, donc en fait, on a décidé de participer à l'organisation de cette soirée. Tout d'abord, c'est venu d'un constat. Nous, au Grenier, on a une de nos collègues qui est très investie dans le soutien pour l'accueil des exilés. Et elle nous avait fait part des difficultés à la fois du point de vue des exilés, de leurs grandes difficultés à atteindre Briançon, etc., les difficultés avec la police, mais également les difficultés pour les bénévoles à leur venir en aide. Donc ça nous a posé question. On s'est dit, mais enfin, on est en lien avec les autres magasins Biocoop du territoire. On sait que le magasin Biocoop, l'épine Vinette à Briançon, est investi aux côtés d'associations, donc ils font des dons quotidiens pour les assos. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Nous, c'est vrai qu'à Gap, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas forcément informé et du nombre d'exilés qui arrivent et des difficultés d'accueil et surtout du manque de bénévoles et de soutien pour avoir un accueil décent de ces personnes. Et on s'est du coup lié avec différentes structures, associations, collectifs du territoire, ainsi que les Biocoop de la Junta dans le Champsaur et d'Embrun, justement pour créer un événement afin de sensibiliser le grand public sur ces problématiques-là d'accueil, de permettre aussi aux associations de se faire connaître, de recruter des bénévoles et enfin de récolter de l'argent. Donc les bénéfices de cette soirée, de cet après-midi, ont été reversés au réseau interbriançonnais et au collectif des réfugiés réfugiés ou alpins.
Et alors, le programme de cette soirée, quel était-il ?
Alors, il y a déjà eu la projection d'un documentaire, Faire tomber les portes du palais, de Timothéo et Alan Rothschild. Le but de ce documentaire est de donner la parole aux exilés entre Clavière, Briançon et Paris. Il a été ensuite suivi d'un échange très riche avec de nombreux assos et collectifs locaux. Donc, je vais en citer certains. Donc, il y avait Tous Migrants, Médecins du Monde, le réseau Hospitalité, la CIMAD, qui est une asso historique qui défend les droits des exilés et des réfugiés, le collectif Maraude, le collectif des réfugiés aux Alpins, une asso féministe toute pour une, et également l'écrivaine, il y avait la présence de l'écrivaine Mathilde Galli, qui a écrit Des vies orageuses. C'est un roman qui suit l'arrivée d'un exilé à Briançon et d'une jeune médecin. Il y a eu des stands d'associations et l'exposition de dessins du livre Les vies orageuses. Ensuite, on a eu un très bon repas par la cantine autogérée de Gap, Les Chats qui touillent. Puis, place à la fête avec un groupe de ska, ska pas carré. Il y avait des DJ au platine, ensuite DJ Haro et Jeannot Turbo.
Il y a tout un programme. Et ça, est-ce que c'est du coup un prolongement aussi d'actions que vous menez toute l'année avec le grenier? Est-ce que vous faites des actions de type collecte, des choses de ce genre?
Alors au grenier, on est en lien surtout avec le réseau Hospitalité, donc on leur fait des dons ponctuels de produits et on leur permet de mettre à disponibilité dans nos magasins des caisses pour collecter des produits alimentaires pour l'accueil des exilés. Donc principalement, c'est des boîtes de conserve, de la sauce tomate, des céréales, voilà, des denrées non périssables. Et avec les autres biocoop du département, donc d'Embrun et de la Juncha dans le Champsaur, on a fait le don d'une palette de produits d'hygiène pour le refuge solidaire de Briançon, qui était à ce moment-là en beaucoup de besoins et en difficulté à ce niveau-là. Et
justement, aujourd'hui, les besoins en termes de denrées alimentaires, de vêtements, de choses comme ça, est-ce qu'on a des forts besoins actuellement ?
Alors,
est-ce qu'on peut profiter de cette tribune aussi pour faire un appel aux dons ?
Oui. Actuellement, puisqu'il y a assez peu d'arrivées en ce moment, j'ai tendance à dire que les besoins sont pas forcément plus marqués. Mais comme on l'a vu cet été, il se peut qu'un événement ailleurs dans le monde, finalement, ne provoque l'arrivée de dizaines de personnes, ce qui reste faible, mais qui nécessite effectivement des dons, et principalement alimentaires.
Donc toujours rester un peu à l'affût aussi de ce qui pourrait se passer par la suite et
exactement.
Toujours avoir des stocks aussi de prêts au cas où.
Des stocks de prêts au cas où et des personnes prêtes à accueillir dans l'urgence si la situation qu'on a connue cet été se représente.
Et là, on parlait justement de deux événements qui se sont tenus là en mars. Est-ce qu'il y a d'autres actualités qui sont prévues, notamment avec Tous Migrants ? Est-ce que vous allez prévoir d'autres événements pour sensibiliser les citoyens et citoyennes à l'accueil des personnes exilées ?
Alors là, vous me prenez un peu dépourvu, j'ai pas regardé l'agenda. Mais... non, mais très régulièrement, en fait, il y a un groupe dans Tous Migrants qui, comme je vous le disais, qui a vocation à s'adresser à des jeunes, des moins jeunes. Et donc régulièrement, en fait, il y a des rencontres. Donc il est tout à fait possible pour des profs, pour des associations, des entreprises, des groupes d'amis de se renseigner auprès de Tous Migrants pour que Tous Migrants fasse une intervention dans une école ou n'importe quelle structure prête à accueillir cette association qui souhaite un peu réfléchir sur l'immigration. Ouais.
Et donc, par quel biais est-ce qu'on peut vous contacter si jamais on souhaite rejoindre le projet
Alors, on retrouve tous les contacts sur le site. Donc, en tapant Tous Migrants sur Google, on retrouve le mail. Je crois, sans me tromper, qu'il existe une adresse mail tousmigrants@gmail.com. Mais je conseille quand même d'aller vérifier sur le site de Tous Migrants, qui est très facilement accessible.
Donc, vous avez une page Facebook aussi, il me semble.
Oui.
Alors, nous allons faire une deuxième pause musicale avec un second morceau mondialement connu. C'est le morceau Yaraya, une chanson sur l'exil, ses espoirs et les souffrances du déracinement. Donc c'est un morceau paru en 1973. Il a été écrit par le musicien algérien Daman El Arachi et il est ici interprété par Rachid Taha. Écoutez Locaux du Bio, le rendez-vous des agités du local sur Fréquence Mistral. Vous venez d'écouter Yaraya par Rachita. Vous êtes toujours dans Locaux du Bio avec nos invités Camille Danel et Faisal Khalaf. Donc nous allons passer à l'astuce. Comme chaque mois, Camille, tu vas nous présenter une astuce ou une recette. Donc ce mois-ci, tu nous proposes une astuce pour sortir de l'hiver en douceur. Cette astuce, quelle est-elle ?
Eh bien, c'est une astuce pour détoxifier son organisme, parce que vous l'avez tous vu, le printemps est là. C'est le signe d'un renouveau pour la nature, et du coup un renouveau aussi pour nous, puisque nous faisons intégralement partie de la nature. Donc déjà, de base, notre organisme naturellement fait un nettoyage des toxines accumulées pendant l'hiver, notamment à cause du manque d'exercice forcé par l'hiver. Mais si vous voulez faire un petit coup de pouce, vous pouvez à votre organisme, vous pouvez d'abord consommer des légumes de saison. Vous pouvez opter pour les artichauts, le radis noir, les asperges, le citron, qui font beaucoup de bien pour le foie. Et ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez toujours faire une cure de sève de bouleau fraîche. Donc en plus de détoxifier, cette cure de bouleau va reminéraliser l'organisme et en plus elle a des propriétés anti-inflammatoires. Donc c'est super facile de faire une cure de sève de bouleau. Il suffit de prendre un petit verre au quotidien durant 21 jours à jeun. Ça a très peu de goût, donc c'est pour tout le monde. Bien sûr, je vous conseille pas d'aller directement chercher votre bouleau dans la forêt. Il y a notamment Marion Barbarin qui le fait très bien. Elle récolte de la sève de bouleau fraîche qui est non pasteurisée dans les forêts de Lubaye. Donc la saison de récolte de la sève de bouleau est très courte. Ça dure juste le début du printemps au moment de la montée de la sève après les arbres bourgeonnent. Donc si vous voulez faire cette cure, n'hésitez pas à la faire tout de suite. C'est une cure qui est locale, et qui ne fait aucun mal aux arbres, puisqu'il y a vraiment juste très peu de sève qui sont collectées sur la montée de sève. Donc rassurez-vous les amis des arbres, ça ne fait rien au bouleau.
Eh bien, merci Camille et merci à tous les deux pour ce temps d'échange riche qu'on aurait aimé prolonger encore plus longtemps. Pour toutes les auditrices et auditeurs qui souhaiteraient rejoindre vos actions, on en parlait, hein, vous pouvez participer à des collectes, il y a une adresse mail, un site internet que vous pouvez consulter pour aller rejoindre aussi tous migrants ou d'autres collectifs des Hautes-Alpes. Et d'ailleurs, pour rencontrer, échanger et s'engager. On va se retrouver le mois prochain, Camille, pour la 4e édition de Locaux du Bio, en compagnie de l'association Échangeons le Monde. Alors, quel sujet abordera-t-on ?
Eh bien, le mois prochain, nous parlerons commerce équitable, puisque c'est la quinzaine du commerce équitable. Et donc, le but, c'est d'échanger, de parler du commerce équitable nord-sud, mais aussi dans les pays du Nord et en France.
Bien, merci à tous les deux.
Merci.
Merci. Merci.